Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues, en effet, cette semaine, c'est l'invisible. Lundi, nous nous choisissions l'invisibilité sociale comme grille de compréhension des différents processus d'exclusion. Hier, mardi, des artistes faisaient apparaître l'infiniment petit ou le lent mouvement de la nature et le rendaient visible. Et demain, le rapport aux morts et autres puissances impalpables, nous occuperons avant vendredi de se pencher sur l'ellipse et le hors-champ au cinéma. Aujourd'hui, ce qui est invisible, c'est l'infrastructure du web.
Mesdames, messieurs, il est devenu un lieu commun de dire que la mer constitue le dernier inconnu, c'est-à-dire la mer non point comme les marins, mes ancêtres, la comprenaient, c'est-à-dire une surface, mais bien la mer en tant que milieu, en tant que monde. Ce monde, seul les poètes, pendant jusqu'au siècle dernier, l'ont véritablement soupçonné.
Depuis l'insurrection qui vient, nous nous sommes portés là où l'époque s'embrasait. Nous avons lu, nous avons lutté, nous avons discuté avec des camarades de tout pays et de toute tendance. Nous avons buté avec eux sur les obstacles invisibles du temps. Certains d'entre nous sont morts, d'autres ont connu la prison. Nous avons persisté. Nous n'avons renoncé ni à construire des mondes, ni à attaquer celui-ci. De nos voyages, nous sommes revenus avec la certitude que nous ne vivions pas des révoltes erratiques, séparées et s'ignorant les unes les autres et qu'il faudrait encore les lier entre elles. Le comité invisible signait à nos amis, c'était aux éditions La Fabrique et ça se lit encore. Il est 14h passé de 2 minutes, échelle infime, échelle énorme. Bienvenue à vous dans les nouvelles vagues. Et ces nouvelles vagues, nous pensons qu'elles sont le fruit d'expériences et de découvertes marquantes. Ce sont ces moments-là que nous demandons à une personne par semaine de nous raconter. Cette semaine, le peintre Jean-Pierre Plound sonde ses souvenirs à la recherche de ces instants de bascule et aujourd'hui il évoque sa découverte de l'architecture alors qu'il est enfant dans un jardin de la banlieue parisienne, depuis lequel il voit s'élever les premières tours de la Défense. Récit vers 14h50. C'est le troisième moment d'une semaine consacrée à l'invisible et l'invisibilité. Comme chaque mercredi, nous accrochons notre thème de la série à un des fils du réseau, des fils des communications, des techniques numériques ou autres joies du grand deep web. Aujourd'hui, ce sont les câbles sous-marins qui sont invisibles. Dans quelques secondes, on nous expliquera comment et par quels tuyaux courent les gigaoctets d'informations et de données pour aller d'une machine à une autre, y compris quand elles sont séparées, ces machines, de plusieurs milliers de kilomètres. Mais les câbles ne sont pas les seuls invisibles. Leur surveillance l'est aussi, leur écoute, leur interception parfois, sont des pratiques d'État invisibles car secrètes, même si récemment révélées par Edward Snowden. De l'invisibilité de l'infrastructure du web à l'invisibilité de ce qui touche à la captation de la masse d'informations qu'il transporte, on va parcourir bien des kilomètres. Et pourquoi pas sous l'eau cet après-midi avec vous, Benjamin Zontag. Vous êtes ingénieur réseau, vous êtes aussi membre de la fameuse, très fameuse association La Quadrature du Net. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Et Jean-Luc Villemain, vous êtes directeur réseau services internationaux de la non moins fameuse entreprise Orange. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour, merci.
On entendait pour commencer cette émission une voix qui nous arrive à la fois du passé et de sous les mers, puisque c'est le Cousteau commandant qui rappelait que le fond des mers n'est réservé qu'aux poètes. Alors ça vous encourage à être assez poétique cet après-midi, mais ça nous encourage aussi à parler du fond des mers comme étant invisible. Finalement, c'est invisible pour juste une grande partie de la population, mais pas pour les spécialistes que vous êtes, ce qui se passe au fond des mers.
Oui, effectivement, et comme vous le disiez, le fond des mers, c'est à la fois un milieu invisible, discret et extrêmement peuplé, puisque aujourd'hui, à peu près 99% du trafic mondial de l'Internet passe par cet immense réseau de câbles sous-marins, qui est aujourd'hui effectivement plutôt dédié au transport de la donnée, mais qui est quelque chose de relativement ancien, puisque le premier câble sous-marin, il a été posé en 1850, hein, c'était entre le Pas-de-Calais Anglais et l'Angleterre. Alors à l'époque, c'était bien évidemment des câbles télégraphiques hein, qui ont ensuite évolué en câbles téléphoniques, puis plus tard en câbles fibre optique pour atteindre les débits que nous avons aujourd'hui. Mais cette technologie des câbles sous-marins, elle est quand même relativement ancienne. Nous regardions il y a quelques instants une carte qui montrait que déjà en 1930, le réseau des câbles téléphoniques à travers le monde était un réseau extrêmement important. Donc en fait, l'appropriation par les hommes du territoire des océans et du territoire sous-marin au profit de la communication est un phénomène qui est quand même relativement ancien dans l'ère des télécommunications.
Quand on dit sous-marin, est-ce qu'il faut entendre qu'ils sont enfouis dans le sol, sous la mer ?
Alors, ça dépend où, puisque les câbles sous-marins, ils traversent les océans, qui ont eux-mêmes des profondeurs extrêmement variables. Donc, quand on est dans les très très grandes profondeurs, on se contente juste de poser le câble au fond de l'eau et ça suffit. En revanche, quand on approche des côtes, et là en particulier où il y a une activité humaine importante, avec par exemple des ancres, avec des chaluts, etc., là il devient nécessaire de protéger le câble pour qu'il ne soit pas arraché par une ancre, un chalut ou quelque chose. Et donc effectivement, dans ce cas, on a un terme un peu technique, on dit qu'on ensouille le câble. Donc en fait, on l'enterre à des profondeurs qui peuvent être assez variables, hein, je veux dire, et qui dépendent du risque d'arrachage qu'il y a. Et aujourd'hui, il est assez fréquent qu'on ensouille, donc on enterre le câble à des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 3 mètres sous le niveau du sol, de manière à le protéger et à éviter des interruptions qui sont toujours assez catastrophiques pour le web mondial.
Ben oui, parce que la bonne santé et la protection de ces câbles semblent absolument importants. Si on dit que la majorité de l'information, si vous dites 99% des infos circulent par là, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de couac technique, il ne faut pas que ça casse. Quand vous parlez du caractère très historique de ce réseau et faites remonter ces câbles au 19e siècle, est-ce qu'on utilise encore des tracés, des câbles qui étaient, qui ont été installés à cette époque-là ?
Des tracés, oui, parce que en fait, quand on regarde les chemins qui correspondent bien, qui conviennent bien à une pose de câble, on essaye d'éviter quand même les zones trop profondes. Alors quand il y en a et qu'il faut passer dessus, on passe dessus. Puis on évite de croiser les câbles les uns par-dessus les autres, parce que après, quand il faut aller réparer, c'est problématique. Mais c'est en gros les mêmes chemins qu'utilisaient ces câbles effectivement au XVIIIe siècle. Et si vous regardez la carte des câbles, par exemple, à travers l'Atlantique, alors il y en a plusieurs, hein, ce qui concourt aussi à la sécurité des communications, ce qui fait que quand un câble est en panne, est coupé, etc., le trafic est habituellement rerouté par d'autres câbles. Ce qu'il faut bien considérer, c'est la totalité de l'architecture qui est dessinée par l'ensemble de ces moyens de communication et pas simplement par un câble. Mais quand vous regardez les trajets de ces câbles, vous constatez qu'ils sont tout à fait parallèles sur l'Atlantique. C'est assez rigolo, ça fait comme une espèce de faisceau. Alors après, quand on regarde par exemple sur le Pacifique, c'est un peu différent. C'est assez amusant aussi parce qu'on voit l'évolution des technologies. Le Pacifique a la particularité d'avoir tout un tas de petites îles au milieu, et sur les câbles anciens, où on avait des limitations de portée des câbles, on s'aperçoit que les câbles, en fait, ils s'arrêtaient à chaque île pour se recharger un peu, pour retrouver de l'énergie, et puis alors que les câbles les plus récents, eh bien, sont complètement droits, et les équipes d'Orange Marine sont en train de terminer, par exemple, la pose d'un câble transpacifique, fait 9000 km de long, et ce câble a été posé d'un seul tenant. Donc 9000 km de câbles posés d'un seul tenant entre le Pacifique et la côte ouest des États-Unis.
Petit point pédagogique, je ne sais pas qui s'y colle, mais 9000 km de long, comment circule cette information dont il faut peut-être rappeler peut-être la nature, hein, quand on envoie un signal, quand on envoie une information, un mail ou un échange d'images, prenons cela, qu'est-ce qui circule pendant 9000 km et à la force de quoi ?
Alors ce qui circule, c'est de la lumière aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on n'utilise quasiment plus que de la fibre optique pour le sous-marin, moins connaissance, plus que de la fibre optique, parce que ça va très vite, la lumière. Et en fait, quand on met de la lumière, c'est un 1, et quand on ne met pas de lumière, c'est un 0.
Donc bon,
je vous la fais vite. Hein.
On garde ce petit principe assez pratique du 1-0, 1-0.
Exactement, parce 1, qu'en 0. Fait, c'est ce qu'on sait mesurer le plus rapidement. Par ailleurs, on sait aussi dire, est-ce que c'est du rouge, du vert, du bleu, de l'orange, du jaune, et ça nous permet d'avoir plusieurs canaux en parallèle, comme des canaux de radio, en fait. Et donc, d'un côté, on met un prisme. Vous savez, comme l'album de Pink Floyd, on a de la lumière de toutes les couleurs qui arrive du câble de l'autre bout du monde, et on la sépare en couleurs et on capte les différentes couleurs pour savoir si c'est le canal 1, 2, 3, 4, 5. Et on peut, à très très grande vitesse, plusieurs dizaines de millions de fois par seconde, on peut savoir s'il y a de la lumière ou il n'y a pas de lumière. Et donc, on peut savoir si à l'autre bout, ils ont mis un 1 ou un 0.
Ce qui nous permet de décoder et de produire une information à l'autre bout du câble.
Exactement. Et donc, à chaque bout, et on fait ça dans les deux sens. Et puis, comme ça, on arrive à transférer de l'information. Après, il y a toute l'infrastructure de l'Internet qui entre en jeu là-dessus, en plus qu'aux deux bouts. Après, il y a des équipements qui, de proche en proche, vont vous envoyer ça jusque chez vous, par d'autres câbles qui, eux, ne sont pas sous-marins, mais sont terrestres.
Ils sont aussi invisibles.
Et qui sont tout aussi invisible, mais beaucoup plus facile à trouver. Il y a eu cette fameuse histoire il y a 2 ans de la grand-mère en Géorgie qui a fouillé dans son jardin et qui a coupé un câble de fibre optique qui était apparemment le seul qui a alimenté la Géorgie en Internet à l'époque. Et il y a eu une panne d'Internet dans toute la Géorgie pendant quelques heures, le temps qu'ils s'en rendent compte et qu'ils basculent, qu'ils fassent des choses, peut-être même quelques jours.
Ça rappelle quand même à la technologie ou aux usagers de cette technologie où tout semble si immatériel et évanescent que c'est quelque chose qui est très structuré, très structurel et très matériel en fait.
Et quand M. Villemain tout à l'heure disait qu'il y avait évidemment de la redondance, c'est-à-dire qu'il y a, quand il y a une fibre, un câble sous-marin qui est coupé, un des cas qu'on a eu très récemment, c'est un des
Algérie.
Je crois que c'était des requins qui sont connus pour être attirés plus ou moins par les câbles. Enfin, c'est peut-être une légende urbaine, mais en tout cas, ça, voilà, quand il y a une panne, bah, ça bascule sur une autre fibre.
Ou ça veut dire qu'on a des câblages parallèles.
C'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des câblages parallèles. Et j'entendais parler quelqu'un de chez Free il y a 5-6 ans qui parlait de leur réseau de collecte. Donc c'est le réseau pour le coup terrestre en France. Et ils disent on a en moyenne une panne par jour. C'est-à-dire qu'une fois par jour, ils se rendent compte qu'ils perdent une fibre quelque part entre deux départements, entre deux régions, au niveau national, peu importe. Et ils sont obligés de basculer sur du secours et d'aller envoyer une grippelle pour aller creuser, voir ce qui s'est passé et réparer.
Mais évidemment, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer de toute façon une telle densité de câblage et de telle distance qui ne casserait jamais, en fait. Juste pour continuer la question, à savoir à la force de quoi, c'est 9000 kilomètres. Donc quand on dit on envoie de la lumière et on a la possibilité de décoder cette information de lumière envoyée ou non envoyée, comment circule-t-elle dans les câbles? 9000 kilomètres, c'est un sacré paquet d'énergie pour les parcourir.
En fait, il y a des répéteurs, je crois.
Oui, alors cette lumière sont des photons. Hein, en fait, l'énergie photonique, elle est régénérée tous les 80 kilomètres à peu près.
Distance plus raisonnable.
Voilà, absolument. Sous l'eau, hein, de façon là aussi totalement invisible, eh bien, il y a ce que nous appelons des répéteurs, qui sont en fait des équipements qui reçoivent le signal dans un sens et qui vont le réémettre dans l'autre sens de façon régénérée avec une nouvelle puissance qui va permettre de faire un bond de nouveau de 80 km.
Et à ce moment-là, il ne la copie pas. Simplement, il la renvoie.
Il la régénère. On reste au niveau photonique, on ne remonte pas au niveau électrique, on reste à ce niveau-là, on récupère, on sait si c'est un 1 ou un 0, un clignotant ou pas de présence, et on régénère le signal. C'est comme une lampe de poche qu'on ferait un peu clignoter dans la nuit. Hein. D'un côté, on reçoit le signal et de l'autre, on réémet de façon extrêmement synchrone. Et c'est ces répéteurs de 80 km en 80 km qui vont régénérer le signal et qui vont permettre au signal d'arriver à l'autre bout.
Avec on est quasiment sur du instantané aujourd'hui. Quand on envoie une image, on a quelques secondes, non?
On est sur quelques millisecondes. Voilà. Alors, c'est pas neutre et j'y reviendrai un peu. Je pense qu'on parlera un peu plus tard de l'utilisation de ces données qui traversent ces câbles sous-marins. Alors une des utilisations, les câbles sont très prisés par les acteurs de la finance mondiale, notamment ces gens qui font ce qu'on appelle de l'hyper-trading, hein, c'est-à-dire qui envoient des ordres de boursiers à très très haute vitesse, et ce sont des gens qui sont très sensibles au temps de transit de l'information sur les câbles.
Oui, parce que ça bouge du coup la valeur.
Exactement, et il faut pouvoir passer des ordres à très très grande vitesse. Et une des caractéristiques de ces câbles que nous installons aujourd'hui, c'est leur extrême capacité en termes d'information. Nous étions hier en train d'installer un nouveau câble qui faisait son atterrissement. On en parle d'un atterrissement pour un câble sous-marin, hein. Pas d'un atterrissage qui est une transition
de l'air vers le sol.
Alors que l'atterrissement, c'est de la mer vers le sol, exactement. Eh bien, ce câble a une capacité de 24 terabits par seconde. Alors, terabits par seconde, ça dit pas grand-chose peut-être à certains de vos auditeurs, mais c'est 24 000 milliards d'informations par seconde qui transitent par ce câble sous-marin. Donc ce sont des capacités qui sont juste considérables. Même à l'échelle d'Internet, ce sont des capacités de transit qui sont considérables. Et c'est normal puisqu'un câble a une durée de vie d'à peu près 20-25 ans et donc il est conçu pour pouvoir transmettre des informations d'aujourd'hui mais également le volume d'informations auxquelles nous aurons à faire face dans 2 dizaines d'années.
I mean, the undersea cables are definitely my favorite part of the internet. They are the kind of most poetic part of the internet.
Les câbles sous-marins sont ma partie préférée de l'internet.
First important thing to recognize is there.
C'est ce qu'il y a de plus poétique dans l'internet.
Across the Atlantic, depending on how you.
La première chose à comprendre, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup.
Cables, they're very small.
Pour ceux qui traversent l'Atlantique, on peut les compter. Il y en a 10 ou 12.
One dimension, the other dimension, of course, they're three.
Ils sont de faible diamètre, comme les tuyaux d'arrosage.
They land at very specific.
En longueur, c'est autre chose, évidemment. Ils mesurent entre 3000 et 8000 miles.
It's hard to sort of appreciate that until you.
Ils émergent dans des endroits très précis. C'est évident, mais difficile de le mesurer avant d'être allé voir sur place. L'un de ces lieux les plus importants, où les câbles sortent de l'eau et se relient au rivage, c'est souvent un village poussiéreux, paumé. C'est un peu le phare, le lieu qui envoie et reçoit les incroyablement rapides signaux de lumière qui transmettent les quantités colossales d'informations.
And the two places that I liked most.
Des deux endroits que j'ai préférés, l'un se trouve en Cornouailles, à l'extrême ouest de la Grande-Bretagne. Un petit lieu où sont toujours arrivés les câbles télégraphiques transatlantiques.
This one tiny spot for sort of obvious geographic reasons because it is the.
Pour des raisons géographiques évidentes, la Cornouailles a été depuis le milieu du 19e siècle le lieu d'arrivée des câbles transatlantiques.
Beginning in the 1850s was where all of the international links landed and is still the major spot.
Et ça reste le lieu majeur pour la nouvelle génération des câbles de fibre optique.
On entend ici la voix d'Andrew Bloom, interrogé par la journaliste Claire Richard. C'est lui-même un journaliste. Ici, il était interrogé pour l'émission Place de la Toile, diffusée en juillet 2013 pour Tubes. Il va à l'intérieur de cette infrastructure physique et d'une certaine manière, en tout cas, il popularise pour nous qui n'en avions pas conscience ou connaissance, cette immense infrastructure. Ce que dit Andrew Bloom est assez intéressant quand il rend assez imagé ce moment que vous décriviez, à savoir l'atterrissement, ce bout du câble sous-marin, souvent dans un village côtier, il parle des Cornouailles, on peut aussi citer un village du Finistère en Bretagne, très très à l'ouest, qui est le moment d'arrivée, qui est un moment quasi émouvant en fait, si on rend romantique la chose. Une fois que cette information est arrivée sur Terre, qu'est-ce qui se passe pour elle?
Elle arrive sur Terre et elle se retrouve transmise à nouveau en fibre optique, parce que c'est quand même ce qu'on trouve qu'on est plus rapide aujourd'hui, et de fibre optique, de proche en proche, des Cornouailles jusqu'à je ne sais quelle autre région de grande ville proche en Grande-Bretagne, et de cette grande ville proche, Manchester, mettons, jusqu'à Londres, par exemple. Et puis peut-être qu'à Londres, elle va redescendre pour aller jusqu'à près du canal sous la Manche, du tunnel sous la Manche, où là, elle va prendre une autre fibre, et puis elle va arriver jusqu'à Paris, et de Paris, elle ira jusqu'à la maison de la radio, et puis à la maison de la radio, elle arrive sur votre ordinateur. Les derniers kilomètres, en général, ils vont être faits en cuivre, sauf si vous avez la fibre chez vous. Mais globalement, il y a un chemin physique, réellement physique, entre les deux extrémités de l'ordinateur qui parle et celui qui écoute. Et ça passe après par plein d'équipements, qui sont des multiprises réseau, en quelque sorte, qui vont mélanger toutes les communications de tout le monde, qui doivent passer par le même tuyau.
J'allais y venir. Il y a une multitude de bouts de ce réseau. Et on a ici, à notre droite, en votre personne, quelqu'un de Orange. Et donc, c'est bien qu'il y a des entreprises qui seront chargées d'entretenir, de fabriquer, de mettre en place, d'aller voir si tout va bien, d'imaginer, j'imagine, par de la prospection et de l'innovation, d'autres manières de transmettre l'énergie. Mais comment tout ce monde-là se met globalement d'accord pour que ça fonctionne ?
Alors, si j'étais méchant, je dirais que c'est l'ONU Empire. C'est-à-dire que les câbles sous-marins, ce sont des investissements qui sont quand même très très importants. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros, et le câble le plus coûteux que j'ai eu à gérer dans ma carrière est monté jusqu'à 1 milliard d'euros. Donc, ce sont des investissements qui sont tout à fait considérables.
C'est lui tout seul ou c'est tous les ingénieurs autour?
C'est tout. C'est donc la conception du câble, la fabrication du câble, la fabrication des répéteurs. Vous savez, ces répéteurs dont on parlait, un répéteur, ça vaut presque $1 million à lui tout seul. Donc, il y en a tous les 80 kilomètres. Donc, je vous rappelle. Donc, sur un câble qui fait 20 000 kilomètres, je vous laisse faire le calcul.
Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup et ça représente beaucoup d'argent. Donc, après, effectivement, il faut la fabrication du câble, la fabrication des répéteurs. Il faut aller le poser. Et je ne parle pas, pour le moment, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, de tous les mécanismes d'entretien qu'il faut mettre autour de ces câbles, parce que vous disiez tout à l'heure que dans le réseau d'un opérateur français, bien, il y avait une coupure par jour. Les câbles sous-marins, il y en a toutes les semaines.
C'est très mignon cette façon de ne pas dire free. Oh, j'espère que tout le monde a relevé, je trouve ça vraiment incroyable. Dans un autre réseau.
Je crois que free ne fait pas de déploiement transatlantique ou transpacifique.
On vous laisse poursuivre, pardon.
Donc, dans tous les réseaux, il y a des coupures tous les jours. Dans les câbles sous-marins, il y en a toutes les semaines. Hein. Et ça veut dire que quand un câble est coupé, il n'y a pas 36 moyens, il faut envoyer un bateau le réparer. Ce qui veut dire que dans le monde, un peu partout, il y a des bateaux qui sont à quai perpétuellement avec un équipage à bord et qui sont prêts à appareiller en moins de 24 heures avec les équipements nécessaires pour aller réparer un câble.
Et ça, c'est chacun son câble. C'est-à-dire
non,
que...
Ah, non, je l'expliquerai. Les câbles, c'est vraiment une affaire de communauté. C'est une communauté pour installer, c'est une communauté pour exploiter et c'est une communauté pour réparer.
Mais parce pourtant, les intérêts financiers sont différents en fonction que c'est Orange ou d'autres entreprises.
Ça coûte tellement cher déjà qu'il faut mutualiser.
Absolument. Personne ne peut gérer aujourd'hui, à lui tout seul, l'infrastructure et surtout faire face aux coûts financiers de cette infrastructure de façon indépendante. C'est pas possible. Il n'y a pas de rentabilité. Ce sont des investissements qui sont mutualisés.
À l'international.
À l'international, exactement, entre plusieurs acteurs. Alors, historiquement, ces acteurs sont plutôt les opérateurs télécoms. Ce n'est plus uniquement le cas. On voit aujourd'hui des nouveaux acteurs qui entrent dans le domaine des câbles sous-marins et ce qu'on appelle dans notre jargon les OTT, les acteurs over the top, hein, les Google, les Amazon, les Facebook, aujourd'hui, les Microsoft aussi, prennent des participations dans les câbles sous-marins. Mais à la base, le principe est toujours le même. Ce sont des consortiums, en quelque sorte, ce sont des copropriétés. Donc, ce sont plusieurs acteurs qui discutent entre eux pour réaliser un câble entre deux localisations. Voilà. Alors, c'est très très compliqué les discussions parce que, bien évidemment, on est à peu près d'accord sur le point d'arrivée, le point de départ, mais après, quelle participation chacun va prendre dans le câble? Où est-ce que ce câble va s'arrêter? Ces câbles ne sont jamais des câbles directs. Ils s'arrêtent sur tout un tas de positionnements entre les deux extrémités. Donc, où est-ce qu'ils vont s'arrêter? Qui va posséder les stations d'atterrissage de ces câbles?
Et qui va pouvoir les louer aussi?
Qui va pouvoir les louer? Quelle capacité va appartenir à chacun? Et ce, non pas simplement entre l'extrémité A et l'extrémité B, mais sur chacun des tronçons. Hein, puisqu'il est possible de communiquer entre l'ensemble des points d'atterrissement du câble. Ce sont des discussions qui sont extrêmement longue.
Et qui ressemble à quoi? Des négociations géopolitiques à l'international?
C'est ça, oui. Et je vous remercie de cette observation parce que c'est vrai qu'un câble, c'est une aventure technique. On commence à le voir, c'est aussi une aventure financière, mais c'est aussi une aventure géopolitique. Le fait qu'un câble arrive dans un pays, alors dans certains pays, d'abord, c'est un facteur de développement économique extrêmement puissant, hein, notamment en Afrique. Il faut voir qu'en Afrique, l'arrivée d'un câble en Afrique, c'est le synonyme d'une explosion de l'Internet, d'une libéralisation de l'Internet, c'est plus de débit, plus de bandes passantes, moins cher, plus disponible pour l'ensemble des opérateurs. Donc c'est un facteur de développement économique important. Et à côté de ça, le contrôle de cette bande passante, donc qui va être le possesseur de la capacité sur le câble, c'est un point de pouvoir important.
Qu'est-ce qui rentre en compte? Ce sont les territoires marins. Qu'est-ce qui fait en sorte? Qu'est-ce qui peut régir et
la localisation géographique est très importante. Hein. Vous avez des pays qui ont la vocation, qui souhaitent se positionner comme étant des points d'accès importants pour l'atterrissage des câbles
et
qui peuvent constituer des points d'échange de capacité entre les câbles. Oui, le monnaie. Hein, il y a ce qu'on appelle des droits d'interconnexion. Et si vous êtes le possesseur du droit d'atterrissage d'un câble à un endroit, vous pouvez faire payer les gens pour interconnecter deux câbles entre eux et pour les échanges qui vont avoir lieu entre ces câbles.
Qui sont les personnes qui discutent autour de la table pour gérer ce genre de questions? Parce qu'on imagine que toutes ces personnes autour de, par exemple, ce très gros câble qui coûte un milliard d'euros sont des personnes très au fait de la technique, de l'ingénierie. Mais là, on est vraiment sur des enjeux qui sont très très politiques, industriels, financiers. Ouais. Qui discutent?
Eh bien, les représentants des opérateurs, les représentants
des
parties. Alors non, c'est pas une structure étatique aujourd'hui, sauf dans les pays où les opérateurs sont une émanation de l'État, hein, ce qui est quand même le cas dans un grand nombre de pays, hein, notamment en Afrique. Mais en Europe, chaque opérateur discute de façon totalement autonome. Après, notamment encore une fois dans certains pays, les politiques de certains opérateurs peuvent être plus ou moins soutenues détenus par des politiques étatiques et économiques. C'est le cas par exemple à Singapour. Singapour est un lieu extrêmement puissant en matière d'interconnexion de câbles. Singapour est une ville-État qui se positionne comme étant la porte de l'Asie pour l'Europe. Et c'est une ville, un État qui a toujours mis beaucoup d'argent sur la table de manière à s'assurer à ce que les câbles internationaux aboutissent chez eux et qu'ils puissent ainsi constituer une plateforme d'échange entre les informations qui viennent de l'Europe, les informations qui viennent de l'Asie, et puis également en parallèle, renforcer la puissance économique de Singapour, qui est une place boursière, une place financière extrêmement importante et croissante.
Et donc en dehors de cet exemple-là, la majorité des personnes qui discutent ensemble de ces six grands intérêts industriels et financiers ne sont pas des États. C'est-à-dire que c'est une grande infrastructure qui structure la majorité de nos échanges aujourd'hui, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient de l'ordre de la communication entre les citoyens, n'ont rien à voir avec l'émanation du pouvoir du peuple.
Non. Enfin, sont des entreprises donc qui représentent aussi le peuple d'une certaine façon, ou les besoins du peuple.
D'une autre façon, on va dire.
Voilà, d'une autre façon.
Ce qui est marrant, c'est que c'est exactement comment fonctionne tout le reste de l'Internet, d'ailleurs.
Ouais.
Si vous regardez, quand vous avez commencé à parler de comment ça se décide, tout ça, je me suis dit, moi j'ai pensé tout de suite IETF, qui sont les ingénieurs qui font les normes de l'Internet, donc les protocoles, comment on discute. Et en fait, c'est un peu la même chose au niveau du comment on le fabrique, ce qu'on vient d'entendre. Et je trouve ça vraiment passionnant de se dire que finalement, l'Internet, ça a été une espèce de première génération spontanée de politique en dehors du politique, finalement.
Mm-hmm.
Ça s'est organisé, ça fonctionne, et on le voit, ça fonctionne plutôt bien, et juste parce que des individus se rencontrent en dehors de tout cadre politique, on va dire, et ou dans le cadre du pas dans le cadre du politique, mais en dehors des cadres politiques, et font ensemble des morceaux de ce réseau, et chacun faisant son petit morceau, quand
oui,
on met tout ça bout à
bout. Pas que des morceaux du réseau, quand on se rend compte que il n'y a pas un monde qui serait le réseau, et un monde qui ne serait pas le réseau, un monde qui serait Internet, et un monde qui ne serait pas Internet. Finalement, ce que vous discutez représentant de ces grandes entreprises autour de la table, ce ne sont pas des intérêts qui sont hors sol, ce sont des intérêts qui sont des intérêts profonds du monde politique et de l'organisation internationale.
C'est effectivement un peu un lieu de rencontre entre un aspect technique indéniable, un aspect financier, et puis d'autres aspects qui sont géopolitiques, oui, effectivement.
Et donc c'est assez surprenant, enfin, ça ne vous questionne pas que ce soit hors des ministres, des États,
non,
des grands...
Non, je trouve même plutôt ça assez sain, personnellement.
Ça a l'air beaucoup plus efficace, tout à coup.
Ouais, je suis assez d'accord.
C'est
assez efficace, parce que...
Vous disiez, c'est l'ONU Empire.
Oui, c'est vrai, c'était une boutade, parce que c'est vrai que ce sont des discussions acharnées, parce que les intérêts des uns et des autres, chacun a à cœur de défendre ses intérêts. Et c'est normal. Mais c'est quelque chose qui est efficace, parce que, en fait, les infrastructures qui, in fine, sont construites, sont des infrastructures qui répondent à des besoins avérés, et donc c'est ce lien entre le besoin et la réalisation qui garantit à la fois l'efficacité de l'infrastructure et la satisfaction des besoins des citoyens.
On m'a souvent demandé la question suivante. Pourquoi vous consacrez-vous à l'exploration sous-marine ? Pourquoi vous acharnez à descendre toujours un peu plus profond ? Qu'est-ce que vous espérez trouver au fond des mers ? Voilà justement une question qui n'a pas de sens. Car si nous savions ce que nous allions trouver au fond des mers, nous n'irions pas. C'est justement parce que nous ignorons à peu près tout de ce qu'il y a à trouver que notre curiosité nous pousse à chercher.
Thank you. Jean-Luc Villemain, vous avez reconnu cette phrase de piano puisque c'est vous qui avez suggéré qu'on entende cette musique. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'un morceau qui s'appelle Summer de Joe Hisaishi, qui est un compositeur japonais célèbre pour avoir fait pas mal de musique de film. Et c'est vrai que le Japon, qui est un peu évoqué à travers cette musique, est un pays aussi qui a été un pays très précurseur dans le domaine des câbles sous-marins, puisque c'est une île évidemment, et que leur télécommunication était extrêmement dépendante de ce moyen de communication.
Alors on a dit tout à l'heure un peu, moi en m'en étonnant et vous plutôt en considérant que c'était une bonne chose tous les deux, en tout cas une chose efficace autour de cette table, que les citoyens étaient assez hors de tout ça, ou en tout cas très très au bout des fameux câbles. En même temps, ils sont très concernés, ces citoyens, puisque ces informations pour la plupart du temps, ce sont eux qui les envoient et les font circuler dans ces câbles, qui les génèrent. Intervient la question de la surveillance de ces câbles. Évidemment, au moment où l'information arrive dans ces centres, c'est aussi un moment où on est capable apparemment de les surveiller, ou en tout cas ce qu'on a appelé les écoutes de câbles. À quoi cela correspond-il, Benjamin Zontag ?
Ça correspond à quelque chose qu'on peut faire, quelle que soit la nature du câble, qu'il soit sous-marin ou pas sous-marin. C'est qu'on prend le câble, on le coupe, on met un truc séparé en deux, et puis on fait une copie de la donnée d'un côté, et puis de l'autre côté on le renvoie là où il devait aller. Et comme ça, on écoute. On peut faire ça avec du cuivre en se branchant juste avec des pinces crocodiles. On faisait ça dans ma jeunesse quand on bricolait de l'électronique. Et aujourd'hui, on sait même faire ça avec une fibre en la tordant légèrement, sans la casser. On la tord très légèrement, il y a un peu de lumière qui s'échappe. Le reste continue à faire le chemin, puis on écoute la lumière qui s'échappe. Comme ça, on écoute les 1 et les 0, puis on peut écouter ce qui passe sur le câble.
Bon, là, on le dit en souriant, mais en réalité, ce sont des enjeux, en tout cas pour le respect des données et du secret de ces données et l'utilisation qui peut l'être un tout petit peu moins.
Le secret de ces données, il est très théorique, parce que, en fait, si on regarde un peu l'histoire des télécommunications, faut savoir que dès le Morse, dès les télégraphes, typiquement en Grande-Bretagne, j'avais vu qu'il y avait des centrales qui écoutaient tout les messages envoyés par le télégraphe dès le début du monde du télégraphe. Donc, si vous voyez, les communications des citoyens ont toujours été écoutées en masse. C'est quand Descartes, que Edward Snowden a dévoilé ça. Non, il a rien révélé du tout. Ça existe depuis 3 siècles. Et même probablement déjà à l'époque du roi, quand on a fait la nationalisation de la poste, c'était les chevaux de poste du roi. Il avait fait un monopole de la poste parce qu'il voulait pouvoir que ses postiers puissent intercepter le courrier et en faire des copies pour le roi. Donc les nobles n'étaient pas très contents. Donc vous voyez, tout ça, c'est rien de très nouveau. Et on a découvert ça, par contre, en effet, pour les câbles sous-marins, en 2013, avec les révélations d'Edward Snowden, donc l'agent de la NSA, le contractant de la NSA, qui avait montré un programme qui s'appelle Upstream, et qui consiste à collecter... Alors, il y avait 4 programmes américains et 8 programmes non américains, qui consistaient à collecter à certains endroits clés du réseau, et donc typiquement à l'extrémité des points d'arrivée de ces fibres qui traversent les océans, à collecter les communications,
à faire des copies. À ces points dont on disait tout à l'heure que c'était les points d'atterrissement, c'est ça ?
Les points d'atterrissement, exactement. Mmh. Au point d'atterrissement, ou un petit peu plus loin, en gros, à un endroit où il n'est pas encore découpé entre plein d'opérateurs, plein d'équipements en réseau dans tous les sens, à cet endroit-là, ils vont choisir de faire une copie du trafic.
Qui ils vont choisir ?
Alors, typiquement, dans le cadre des révélations d'Edward Snowden, c'était la NSA, et ses agents, et ses sous-agents, et ses contractants, sachant qu'on sait qu'il y a un certain nombre de pays qui ont collaboré à ça. Dont la Grande-Bretagne, dont la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie, qui sont ce qu'on appelle les Five Eyes, mais aussi la France, l'Allemagne, la Suède, etc., dans ce qu'on appelle les Nine Eyes. C'est une espèce de groupement concentrique autour des États-Unis de la surveillance des États et des peuples. Et donc, on a découvert ça de manière vraiment... On a découvert à quel point c'était industriel et à quel point ça collectait des tonnes et des tonnes de données. Quand on voit les débits qui sont en jeu, en effet, c'est des volumes qui sont colossaux. Juste pour essayer de voir ce qui s'y passe et avoir après des systèmes d'analyse, donc d'autres programmes comme XKScore et autres, qui font l'analyse de ces données collectées au bout des câbles sous-marins.
Alors là, quand on dit la France, la Norvège, ou quand on dit les États-Unis, d'un seul coup, ce sont les États qui rentrent en jeu. Alors c'est quoi ? Ce seraient les États ou des agences étatiques qui toquent à la porte des gros industriels qui disposent des câbles et qui disent bonjour, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, ouvrir le câble et venir surveiller ? Non, Jean-Luc Villemain ?
Non. Alors d'abord, moi, ce que je voudrais dire, c'est que il n'y a pas pour moi de spécificité de surveillance ou d'écoute sur les câbles sous-marins. Il y a une problématique globale qui est une problématique d'écoute et de surveillance de l'Internet, mais elle n'est pas focalisée sur les câbles sous-marins.
Enfin, on a passé une demi-heure à dire que c'était l'essentiel de l'infrastructure du net, les câbles sous-marins.
Oui, sur une partie sous-marine, oui. Mais après, ils se poursuivent sur les terres, ils s'interconnectent entre eux sur les terres,
etc. Et vous dites que c'est écouté partout, en fait.
Moi, je dis qu'il n'y a pas de spécificité sur les les câbles sous-marins. Les câbles sous-marins sont loin d'être l'endroit le plus facile, techniquement parlant, à écouter. Hein, je veux dire, alors ça fait partie de toutes les légendes du net. On parlait tout à l'heure des requins et des coupures de requins sur les câbles sous-marins. Il y a bien d'autres légendes du net dans le même ordre d'idées.
Enfin là, on parle pas vraiment de légendes quand même. Quand on dit qu'il y a, je sais pas, Benjamin Zonta, vous racontez des légendes quand vous dites qu'il y a des moments où, au moment de l'atterrissement, on est capable de faire des coupures.
On a parlé des Américains qui avaient des sous-marins spécifiques pour venir brancher des bretelles dans les câbles sous-marins.
Ça,
sous
c'est
les
mers.
Il n'y a pas besoin.
On a parlé des Russes, et encore il n'y a pas tellement longtemps, on lisait dans les journaux que les Russes avaient une activité importante de navires de guerre autour des câbles sous-marins. Bon, moi, ce que je peux vous dire,
c'est
que
je
ne sais pas si c'est légende, mais en tout cas, c'est des choses dont tout le monde parle et dont on n'a jamais eu de preuve dans l'absolu. C'est exactement comme les requins tout à l'heure, si vous voulez. Moi, nos navires n'ont jamais trouvé sur un câble sous-marin ni un croc de requin, ni une bretelle marquée NSA ou quelque chose dans ce genre-là. On n'a jamais vu de sous-marin.
A priori, il n'y a pas besoin, parce que
on
n'a
jamais
arrive,
vu de sous-marin non plus sur ces trucs-là.
Comme ça arrive sur la Terre,
voilà.
Passer l'atterrissement. Si vous
voulez, un câble, quel qu'il soit, il a plusieurs milliers de kilomètres de long, il progresse dans un milieu qui est un milieu ouvert ou semi-ouvert. Enfin, je veux dire, les câbles sur Terre, ils sont localisés dans des conduits de béton qui sont sous les chaussées, partout, etc. Donc ce sont des câbles dont il est impossible de sécuriser l'accès partout. C'est juste matériellement pas possible. C'est la même chose pour les câbles sous-marins. Donc alors après, moi je ne sais pas s'il y a des écoutes ou pas.
Vous savez
contre,
vraiment pas?
Ah non. Et je peux vous dire qu'en tant qu'Orange, c'est même quelque chose qui nous énerve beaucoup. On est très très attaché au secret des communications. Et il y a 2 ans, je crois, l'Obs avait révélé qu'on avait fait l'objet d'attaques par effectivement des opérateurs. Alors c'était la technique du phishing qui avait été évoquée à l'époque. Hein, c'est-à-dire que les outils informatiques de certains de nos collaborateurs auraient été pénétré par des agences de renseignement et nous avons porté plainte à cette époque. Nous ne collaborons absolument pas avec les États dans cette démarche. C'est juste pas possible. C'est pas possible.
Je vais finir.
C'est pas possible techniquement et c'est pas possible
Qu'est-ce
non plus.
Qu'est-ce qui n'est pas possible techniquement?
C'est pas possible techniquement d'aller mettre des bretelles ou des choses comme ça dans des équipements ou dans des stations d'interconnexion qui sont ouvertes. Si je prends l'exemple du Simi-5, qui est le câble que nous avons installé hier à la Seine-sur-Mer. C'est un câble dont l'interconnexion va se faire sur une station qui est dite ouverte, et sur un point d'interconnexion qui est dit ouvert. C'est-à-dire que tout le monde peut venir se connecter sur ce site. Vous pensez vraiment qu'une agence de renseignement va venir mettre un équipement à un endroit qui est ouvert à toutes les personnes qui veulent utiliser ce câble?
Ça me paraît très
inenvisageable.
Alors on vous a laissé terminer, mais Benjamin Zonta, veut dire qu'on fait quoi? On s'inquiète dans le vide?
Non,
tout le monde
on s'inquiète pas
dans le vide.
Déjà, on en a pour ce qui est de upstream, on en a des preuves de sous forme de fichiers PowerPoint de la NSA qui disent alors nous on a accès à telle et telle fibre côté américain, telle
donc
et telle fibre côté britannique.
Donc c'est bien qu'ils se sont
branchés quelque part. Alors je parle pas de la France pour l'instant. Par contre, il y a une chose.
Mais dans ce cas-là, simplement pour qu'on continue à parler techniquement, c'est-à-dire qu'il y a bien quelqu'un qui a été voir un câble et qui a fait une opération technique sur ce câble.
Et le principe, si je peux me permettre, c'est que le principe, c'est que moi, ce que je connais un petit peu, et je prends l'exemple d'Orange parce que je le connais un petit peu de l'intérieur, de certains aspects, c'est l'opérateur historique, c'est-à-dire qu'avant d'être Orange, c'était France Télécom, et c'était une émanation de l'État. Si vous voulez, à l'époque, quand il y avait besoin d'un ingénieur pour les services secrets français, les meilleurs ingénieurs, ils étaient dans la gestion des télécommunications chez France Télécom. Et donc, il y a toujours eu forcément des collaborations extrêmement étroites entre les services secrets et l'opérateur historique, parce que c'était le fournisseur de très bons ingénieurs, polytechniciens et autres. Et aujourd'hui, ce que je vois chez Orange, c'est que je connais un certain nombre de personnes chez Orange qui sont des anciens des services français. Et il y a des passerelles un peu dans tous les sens.
Non,
si
mais
vous
de toute façon, pause.
Le pouvoir et ces sociétés-là ne peuvent pas jouer l'un sans l'autre. Et je me doute bien que si j'étais à la place de M. Villemain chez Orange, je ne serais évidemment pas au courant de savoir si Orange écoute ou pas 20 cm avant l'entrée dans le point ouvert de Simi-5.
La question à poser est de savoir, il y a une partie des services de l'État et et combien de parties de services militaires dans le monde qui sont chargées de surveiller la circulation de l'information. C'est leur travail. Et une autre partie qui serait des personnes chargées de faire circuler cette information. Comment imaginer qu'à un moment donné, ils ne se rencontrent pas d'une manière ou d'une autre, de manière légale ou illégale? Il y en a qui permettent la circulation, il y en a d'autres dont le travail est de la surveiller, là, cette circulation.
Oui, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y ait une collaboration. L'interception est une technique qui existe depuis très très longtemps. Enfin, moi, je vous rappelle l'histoire des micros du canard enchaîné.
Mais ma question n'est pas une question de collaboration. Ma question est juste de savoir à quel moment c'est possible sur le réseau de le faire.
Ah, mais c'est possible sur le réseau d'un point de vue technique. Sans vous prévenir, j'imagine. D'un point de vue technique, c'est possible partout. Vous pouvez aujourd'hui creuser un trou dans un chemin de campagne, tomber sur une fibre optique et brancher quelque chose sur une fibre optique. Techniquement, ça n'a rien d'impossible. Je veux dire, et c'est ce que je soulignais tout à l'heure, en soulignant que les réseaux par nature qui courent sur des dizaines de milliers de kilomètres dans le monde sont des réseaux ouverts. Donc d'un strict point de vue technique, c'est possible partout. Maintenant, quand on dit quand même que France Télécom est quelque part une émanation de l'État, c'est un peu ce que j'ai entendu.
À l'époque, ça l'était en tout cas.
Il y a très longtemps, il y a quand même plus de 20 ans. Je veux dire, aujourd'hui, autant à une certaine époque, je veux bien admettre que les ingénieurs en télécommunication étaient essentiellement chez France Télécom, ce temps est très largement révolu.
Justement, alors, sans parler d'un temps qui est très largement révolu, aujourd'hui, vous, Orange et plein d'autres entreprises dont on rappelait tout à l'heure qu'ils discutent ensemble de l'organisation et du bon fonctionnement de cette infrastructure, vous vivez dans un monde, et donc vous avez affaire à ce monde qui comprend ces pratiques de renseignement. Donc vous n'êtes pas complètement insensible à l'idée que ce réseau évoque des convoitises.
D'où les plaintes.
C'est-à-dire que vous êtes au courant de tout ça. Alors comment vous dealez ça à la fois d'un point de vue éthique, à la fois d'un point de vue technique? Vous savez que le réseau et l'infrastructure web, elle est attaquée, si on peut dire, par des personnes qui veulent attaquable. Voilà.
Absolument.
Et attaquée. Puisqu'il a été prouvé qu'elle l'a été, attaquée,
elle
cette infrastructure.
Elle l'a été, elle l'a été dans énormément de pays, en énormément d'endroits.
Donc elle est à la fois attaquable, convoitée, surveillable. Comment vous faites? Comment vous dealez d'un point de vue éthique et technique avec cette réalité-là?
Comme toutes les entreprises, je veux dire, la convoitise des services au sens le plus large pour l'information secrète, elle ne s'applique pas qu'aux moyens de télécommunication. Elle s'applique à tous les secrets industriels que
Bien
peut
sûr,
avoir une entreprise.
Mais comme ils sont pas là, je m'adresse
Donc,
à vous.
De la même façon, nous ne collaborons en aucune façon. Nous sommes quand même régis par quelques...
Question.
Mais attendez, mais laissez-moi finir. On est quand même régis par un truc qui s'appelle le secret des correspondances. On le respecte. C'est quelque chose de profondément éthique. Et puis, non seulement c'est quelque chose d'éthique, mais c'est également une simple question de bon sens. Qui nous communique ces communications si on avait la réputation de les communiquer à droite et à gauche? Donc on ne le fait pas. C'est aussi simple que ça. On s'inscrit dans un cadre légal. Il y a un cadre légal en France qui ne prévoit absolument pas d'écoute ou de choses dans ce genre-là. Donc on le respecte. Et puis c'est tout. Voilà. Alors après, au-delà de ça... Certes, il est possible de venir se brancher sur un réseau de télécommunications en fibre optique. Bon, c'est quand même pas à la portée du premier venu. C'est complexe. Hein, on est en train de parler d'un tuyau de lumière. Se brancher sur un tuyau de lumière, c'est compliqué. Les volumes d'informations qui sont à l'autre bout sont compliqués à traiter. On parle de plusieurs milliards d'informations par seconde. Donc nous, on entretient ce niveau de complexité de manière à décourager ce genre d'interception ou de tentative.
Alors, vous mettez complètement dans l'embarras l'un et l'autre, Benjamin Zontag et Jean-Luc Julien, parce que vous avez une discussion hors micro qui concerne, encore une fois, la manière... Parce qu'en fait, ce dont on discutait à l'instant hors micro, c'était de savoir la différence entre une collaboration, entre une infrastructure technique et la possibilité qu'une attaque d'un réseau technique soit faite par l'État et qu'il y ait forcément une discussion, à un moment donné, entre l'État et l'infrastructure. Bref, vous dites que ça n'existe pas,
ça
vous dites qu'il n'y a pas besoin de discussion. Alors, on va passer à un autre chapitre, puisque de toute façon, manifestement, on n'aura pas la vérité sur ce dossier-là à 14h45. L'autre question est de savoir en quels termes, aujourd'hui, on peut parler, entre guillemets, calmement, quand s'invite la loi sur le renseignement, la déclaration d'état d'urgence dans la Constitution, l'idée qu'une surveillance est bonne pour le citoyen, et donc qu'il y a un État... peut-être un état du monde qui favoriserait l'autorisation ou une forme de souplesse à des captations d'informations, y compris par les câbles sous-marins. Non mais vous levez les yeux au ciel comme si vous étiez hors du monde.
Non, je ne suis pas hors du
monde. On n'est pas sous l'eau.
Internet s'est positionné en dehors des frontières.
Alors, qui commence ?
Moi je dirais plusieurs choses. Bon, d'abord, chaque pays a un cadre légal. Bon, moi, il ne m'appartient pas de discuter du cadre légal. Il y a des parlementaires, il y a des lois qui sont votées, etc. Moi, je m'inscris dans ce cadre légal. Quand nous avons des obligations, et nous en avons eu récemment un certain nombre, plutôt sur le réseau France que sur le réseau des câbles sous-marins, hein, nous appliquons cette législation.
Les obligations, c'est-à-dire l'État qui vous demande des informations, c'est
l'État, ça L'État, dans le cadre de la loi sur le renseignement, prévoit l'installation chez tous les opérateurs français de boîtiers qui vont capter ce qu'on appelle les métadonnées des messages, hein, je veux dire, c'est pas un secret, c'est dans la presse, c'est dans la loi, etc. Voilà, c'est une obligation qui est faite à l'ensemble des opérateurs de fournir ces informations, ce qu'on appelle des métadonnées, hein, qui ne sont pas donc le contenu d'un message, mais les éléments caractéristiques de ce message.
Et là, au même titre que tout le monde, vous appliquez.
Voilà, on applique. Bon. Après, moi, ce que je pense qu'il faut retenir des échanges, c'est que Internet, par définition, n'est pas un milieu sécurisé. De la même façon que la poste que vous évoquiez au XVe siècle était quelque chose qui pouvait faire l'objet d'interception, Internet, d'une manière générique, il est possible, techniquement, de réaliser un certain nombre d'attaques sur le contenu d'Internet et sur les informations qui transitent par Internet.
Et donc vous dites, c'est pas les infrastructures, mais du coup, c'est aux utilisateurs et citoyens
moi, ce
de
que
prendre
je dis, c'est
en compte
cela. C'est possible partout. Je veux dire, il n'y a pas une spécificité qui serait liée à tel ou tel service. Il faut partir du principe que, de même qu'à l'époque, des messages dans les chevaux, eh ben, il était possible d'intercepter les chevaux. Aujourd'hui, Internet, il est possible, par un certain nombre de techniques, et je tiens quand même à le rappeler, qui ne sont pas spécifiques aux câbles sous-marins, il est possible d'intercepter, de capter des données qui transitent par Internet. Donc Internet, par définition en lui-même, n'est pas un milieu sûr. On n'est pas un milieu confidentiel.
Et donc, c'est aux citoyens, finalement, c'est ce qu'on dit souvent à la quadrature, qui sont au bout du réseau et qui discutent avec d'autres citoyens à l'autre bout du réseau, d'utiliser ce que nous on préconise, qui est le chiffrement des données, c'est-à-dire le fait de mettre une clé permettant de décrypter les données ou déchiffrer les données. Et si on fait ça de bout en bout, c'est-à-dire si moi je vous envoie un SMS et qu'il est chiffré et que vous le recevez et qu'il est déchiffré à l'arrivée, eh bien l'opérateur ou les opérateurs entre deux qui vont voir passer ce SMS ne pourront pas le déchiffrer. Et de la même façon par Internet, si on utilise...
Opérateur au sens étatique du terme.
Mais c'est ça, parce que de toute façon, l'opérateur, lui, n'a pas vocation à déchiffrer quelque message que ce soit.
Aucun.
Et on n'a pas les moyens techniques par ailleurs, si c'est bien fait.
Donc vous, à la Quadrature du Net et ailleurs, vous dites, à la limite, que l'infrastructure industrielle soit ouverte, en tout cas qu'elle soit aussi performante et solide possible, attaquable par des États ou par d'autres, c'est quelque chose qui existe, voilà. Et donc on ne peut pas lutter contre. Nous n'avons pas les moyens de lutter contre en tant que citoyens. Ce que nous pouvons faire, c'est transformer l'information que nous faisons circuler dans ces câbles.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on préconise le chiffrement, l'utilisation de Tor, par exemple, pour rebondir et éviter de laisser fuiter des métadonnées qui en disent quasiment autant sur nous que les données, etc. D'utiliser des bons outils, des logiciels libres, parce que ça nous permet de voir ce que fait exactement le logiciel et voir s'il faillote pas en envoyant une copie du message à quelqu'un d'autre, etc. C'est un exemple de bonnes pratiques saines de l'Internet.
Et alors, Jean-Luc Vimin, juste pour terminer, aujourd'hui, dans ces fameuses tables qu'on évoquait tout à l'heure et qui, moi, m'étonnaient et me faisaient sourire, cette question d'un moment contemporain un peu particulier et peut-être un peu tendu quand même sur la surveillance, sur la sécurité, n'entre jamais en discussion dans vos négociations à plusieurs millions ou milliards d'euros d'installation, d'entretien sur les câbles sous-marins.
Non, d'abord parce que ce sont des, comme je l'ai souligné, des associations multinationales qui font intervenir énormément de pays, énormément de législations. Chacun a son contexte particulier, s'y conforme, et puis c'est tout. Et c'est pour ça aussi que je disais que d'un point de vue fonctionnement d'infrastructure, c'est pas possible, parce que cette infrastructure, elle est partagée par tous, si vous voulez. Donc ce que fait quelqu'un sur cette infrastructure, les autres le savent. Donc personne ne joue à ce petit jeu
ou alors
sur
tout
une
monde
infrastructure
le sait.
Partagée. Ou alors tout le monde le
ou
sait.
Alors, tout le monde le fait. C'est peut-être le cas en même temps, non ?
Ce qui est ce qui est l'antagonisme de l'objet de la chose, quoi.
Peut-être que tout le monde le sait.
Ça reste discret.
Peut-être que toutes les infrastructures savent que tout le monde observe. Peut-être que
c'est ce que nous ont dit les journalistes qui ont poussé, quand ont poussé des cris d'orfraie à la suite des révélations Snowden. Il y a beaucoup de journalistes qui ont dit oh, ça, on le savait. Ok, bah parlez-en, les gars.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
14h51 sur France Culture, chaque jour à cette heure-ci, nos discussions se suspendent, tout animé soit-elle, pour faire entendre des déclics, des moments d'ouverture et de découverte. Cette semaine, nous avons proposé l'exercice au peintre Jean-Pierre Plondre et il nous parle de sa découverte de l'architecture à travers les tours de la Défense qu'il voit grandir depuis son jardin enfant.
La Défense, pourquoi ? C'est parce que j'habitais à Rueil-Malmaison. Et à Rueil-Malmaison, dans le fond du jardin, c'est une zone pavillonnaire, il y avait un grand cerisier. Et l'été, je faisais la cueillette des cerises sur un grand cerisier. Et de la plus haute branche de mon cerisier, je voyais derrière le Mont Valérien un petit bout de la Tour Eiffel. Et ça, c'était au sud-est. Et à l'est, je voyais les chantiers de la Défense, les premières tours de la Défense. Alors, elles étaient pas hautes, hein, les tours de la Défense. La plus haute, à l'époque, ça faisait à peine 100 mètres. Hein, puis la tour Esso, elle devait faire une trentaine de mètres. Maintenant, ça a été détruit. Et quand je voyais ça, je pensais, mais c'était aussi l'époque, qu'il y avait un monde en train de se construire au-delà de mon jardin. Et il se trouvait que mon père travaillait à l'électrification de la Défense. Il était ce qu'on appelle conducteur de travaux. Et alors, de temps en temps, il m'amenait sur les chantiers et j'ai pu découvrir la Défense alors qu'elle était en train de se construire. Et notamment, il y avait déjà le CNIT qui était construit. Et le CNIT a été construit en 58. Quand j'ai dû y aller, c'était aussi aux alentours des années 65-66. Et c'était un bâtiment extraordinaire parce que c'était le premier bâtiment moderne, vraiment, et d'une grande beauté. Et c'était le bâtiment phare de la Défense. Et à l'époque, le CNIT, ça voulait dire le Centre National des Industries et des Techniques. Et maintenant, ça fait combien, 40 ans après, 35 ans après, ça s'appelle le Centre des Nouvelles Technologies et Industries. Donc on est passé d'un autre monde, mais le CNIT, et maintenant malheureusement le CNIT, il a été, c'était un bâtiment qui était majestueux, et dans les années 70, quand on a reconstruit le parvis de la Défense, il a été enterré. Donc en fait il est enterré presque d'un tiers de sa hauteur. Donc moi quand je l'ai vu, quand j'étais gamin, je suis resté un petit peu en extase devant ce bâtiment, et mon père me disait, tu vois ce bâtiment, il est de Bernard Zerfus, l'architecte. C'était un très grand architecte et c'était ça m'a donné envie de faire de l'architecture. Plus tard, j'ai commencé des études d'architecture que j'ai ratées avec brio. Mais à l'époque, quand je rentrais chez moi, j'avais ces images d'une architecture futuriste et des premières tours de la Défense et je faisais des villes imaginaires, des villes avec le même schéma, la dalle. Les tours, un peu des villes de science-fiction, des architectures de papier.
Thank you. Et l'on entend pour terminer un choix de Romain Couturier de la discothèque de Radio France, Sonlux, Lost into Trying. Pour terminer l'émission, il fut question de l'invisible, de l'infrastructure du web. On n'a pas du tout parlé des satellites et vous le disiez à l'instant qu'il y avait beaucoup à raconter sur ces satellites. Jean-Luc Villemain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Benjamin Zontag, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On peut signaler cet ouvrage, même s'il est difficile à trouver, mais on ne sait jamais, dans quelques brocantes. Du Morse à l'Internet, 150 ans de télécommunications par câble sous-marin. René Salvador, Gérard Fouchard, Yves Roland, Alain Pomme-Leclerc, tous des amis des câbles du sous-marin, qui est aussi la maison d'édition. Les nouvelles vagues sont terminées pour aujourd'hui. Pour les réécouter, rendez-vous sur franceculture.fr. Vous pouvez normalement y retrouver toute la programmation musicale. Quand vous devez attendre une petite heure pour le faire, attendez, car elle sera forcément postée, cette programmation musicale. Merci en tout cas pour vos messages d'écoute et merci à Romain Debec de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée par Somanina, avec aux manettes aujourd'hui Marie Jaworski et Sophie Guéroux. Thank you.